ainsi que Jacques Jouvin, qui est artiste et élève au Frénois, qui vont vous présenter la VR dans les pratiques artistiques au Frénois, construction de monde, corps fantôme et spectre du passé.
Je voulais vous proposer aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, un regard introductif sur quelques exemples d'œuvres en réalité virtuelle parmi les pratiques artistiques du Frénois, avant de laisser la parole à Jeanne Jouvin, donc, qui est artiste et qui, elle, vous parlera plus en détail de son œuvre derrière chez moi. Donc avant toute chose, il me semblait important de vous donner quelques éléments de contexte sur notre structure. Donc le Frénois, Studio National des Arts Contemporains, qui est basé à Tourcoing, est avant tout une école post-diplôme qui accueille des artistes qui viennent du monde entier. Et donc son cursus en 2 ans est basé sur une pédagogie sur la pratique durant laquelle chaque année, les artistes doivent réaliser un projet artistique. Ils disposent pour cela d'un budget de production et la mise à disposition d'équipements de production professionnelle. Les œuvres qui sont exposées étant elles-mêmes audiovisuelles et numériques, et donc du coup qui sollicitent beaucoup les sens et l'attention des visiteurs, une des questions que nous nous poserons au quotidien n'est pas tant, contrairement peut-être à beaucoup d'entre vous ici, comment proposer des outils de médiation numérique, mais peut-être plutôt comment proposer une médiation adaptée à des œuvres qui sont elles-mêmes numériques et qui en fait ne viennent pas amener une surcharge en termes d'attention et de stimuli, aussi bien visuels que sonores, parmi des œuvres voilà, qui vont déjà elles-mêmes amener énormément d'informations à tout niveau. Et en fait, là, vous avez quelques visuels de notre exposition principale, donc un rendez-vous qui est nommé Panorama, qui présente chaque année les œuvres qui sont réalisées par les artistes du Frénois. Donc vous voyez, elle plonge les visiteurs dans l'obscurité des nefs du Frénois, à la découverte à chaque fois d'une vingtaine d'installations audiovisuelles et numériques. Et donc du coup, de par la maintenance qu'elle nécessite et l'accompagnement, la réponse notamment pour les œuvres en VR est souvent, au final, la présence d'une médiation humaine renforcée. Là, du coup, par rapport à ce qui va pouvoir être développé aujourd'hui ou même précédemment, c'était l'idée aussi de vous amener un regard plutôt artistique sur l'utilisation de la VR, et notamment dans le cas aussi de réutilisation de questions d'archives ou de mémoire. Ces dernières années, dans les pratiques artistiques, et notamment au Frénois, l'utilisation numérique et de l'immersion que permet la réalité virtuelle était souvent utilisée comme outil d'une forme de réparation symbolique et mémorielle, de reconstitution d'un espace notamment. Et du coup, ces creux, ces vides, ces doutes que mentionnaient les intervenants précédents, en fait, c'est quelque chose que les artistes utilisent de façon plutôt créatrice pour réparer donc, des absences, des silences, reconstruire des récits effacés, donner forme à des archives fragmentaires, mais avec du coup une grande liberté avec cette question de la mémoire et de l'archive comme un matériau malléable et du coup dans lesquels ils jouent justement de ces absences, de ces vides par le biais du glitch ou justement de ces lacunes. Donc je vous propose d'observer quelques-unes de ces œuvres réalisées au Frénois ces dernières années, qui en fait amènent un petit peu plusieurs approches autour de ces questions un peu spectrales que se posent les artistes. Avec un premier projet d'une artiste qui s'appelle Anna Biriulina, pour qui ce n'est pas l'immersion qui est la caractéristique première de la VR, mais la spectralité, c'est-à-dire sa capacité à réunir l'utilisateur avec les traces immatérielles du passé qui affectent le présent. Donc elle a réalisé l'année dernière une installation en VR qui s'appelait Memories of Tartaria, qui était en fait... qui partait du manque d'archives de la culture tatare à laquelle elle appartient. Et en fait, l'expérience VR commençait par une scène dans laquelle une mère raconte une histoire à son enfant au moment du coucher et lui parlait d'un monde mystérieux qui était celui du Krovostan. Et donc, du coup, de cette histoire racontée à l'enfant, le monde venait se déployer petit à petit autour de nous. Et en fait, ce pays du Krovostan, que Anna Biriulina appelle le pays fictif d'un peuple réel, était en fait recréé à l'aide du logiciel Unreal Engine à partir de photographies d'archives tatars réelles, mais aussi d'autres qu'elle avait reconstituées avec un mélange d'IA et du coup de son propre travail de modélisation. Donc pour elle, il y avait vraiment l'idée de recréer une sorte de capsule de mémoire liminale, l'IA comme espace latent de la culture qui contretient une histoire contrefactuelle, ce qui n'est pas arrivé mais qui aurait pu arriver. Donc là, l'idée aussi d'une forme d'utilisation de la VR, non pas pour parler de l'histoire qui est, mais de venir amener une sorte de contre-archive, ou au contraire de venir combler un vide de l'histoire. Et donc l'artiste nous dit, dans un espace 3D à 360 degrés, ces images sont réassemblées comme des tessons d'une identité culturelle brisée, avec des blancs et des coutures inévitables entre eux. Et c'est là que la fiction, ou plutôt la fiction documentaire, prend place pour combler ces lacunes. Donc là, vous avez aussi un exemple du projet qui venait voir ce monde se déployer autour de nous et dans lequel elle venait introduire aussi une figure encore plus fictionnelle, carrément mythologique, qui était celle d'un monstre nommé Ubir, qui est présent dans la culture tatare et qui, en fait, venait hanter d'une certaine façon le visiteur du casque et qui montre aussi l'intérêt de l'utilisation de cette technologie VR physiquement à la place d'une autre technique. Puisque l'artiste nous disait « La physicalité du casque sur la tête de l'utilisateur lui rappelle son corps et marque l'entrée dans l'espace liminal. » Le simple geste d'enlever le casque signifierait que les fantômes doivent rester contenus. C'est peut-être ainsi que le futur commence enfin. Puisqu'au final, la question c'est aussi pourquoi en tant qu'artiste utiliser la VR plutôt qu'une autre technologie numérique ou tout simplement qu'un autre médium. Et là on voit que dans ce cadre-là, il y a vraiment une adéquation entre son propos et les technologies utilisées. Vous avez aussi un petit aperçu par rapport à quelque chose qu'on va essayer de pointer aussi à chaque fois, qui est la façon dont l'œuvre VR est mise en espace et scénographiée aussi dans l'espace de l'exposition. Là, dans cette édition de Panorama, le casque VR était mis à disposition du visiteur, mais le visiteur lui-même en fait, faisait l'objet d'une sorte de projection lumineuse en ombre chinoise sur des panneaux blancs qui le rendait visible et qui venait lui-même le mettre en avant, ce qui amène quelque chose qu'on va sûrement discuter peut-être après avec Jade, cette question aussi de la vulnérabilité du corps du spectateur qui est en train d'observer une œuvre VR qui va être tantôt du coup un peu mis en lumière comme c'est le cas ici, enfin, même si c'est par le biais plutôt d'un jeu d'ombre, ou à l'inverse parfois entouré, je vous montrerai d'autres exemples ensuite. Donc là, un deuxième projet qui est celui de Domenico Singa-Pedroli, un projet qui s'appelle Another Place, dans lequel l'artiste se posait plutôt la question comment exprimer la transcendance avec un esprit technique qui, par sa construction, force optiquement un point de vue. Est-il possible de filmer sans un point de vue fixe de manière désincarnée? Donc là, plutôt cette idée de... Quel point de vue propose la VR, mais aussi quelle histoire raconter avec ce point de vue-là. Il a raconté une anecdote personnelle dans laquelle il avait filmé une réunion de famille en Thaïlande avec ses parents, qu'il avait montré à son frère absent et qui lui avait répondu « c'est comme être un fantôme », en fait, de pouvoir assister comme ça à une scène à 360 degrés et pouvoir l'observer. Et du coup, en fait, il s'est demandé quelle histoire raconter avec ce médium-là, et il a souhaité raconter l'histoire de René, qui est en fait une personne trans qu'il a rencontrée à Paris, qui a fui la Thaïlande après avoir été accusée de lèse-majesté. Et donc, en fait, du coup, là, la VR lui permet de raconter l'histoire de ce personnage qui, en fait, selon ses propres mots, est un peu comme un fantôme, notamment en termes administratifs, puisqu'elle ne peut plus rentrer en Thaïlande, mais elle n'a pas de papier en France. Donc, ce statut de réfugié fait que, du coup, dès qu'elle, tous les matins, elle se retrouve à errer comme ça dans les rues de Paris. Et l'installation en VR proposait une déambulation dans la ville, qui était en fait un vrai parcours dans ses souvenirs et son histoire avec ses écrans d'affichage type publicitaire qui en fait affichaient différentes images qu'elle avait prises tout au long de cette trajectoire et qui par moments étaient aussi avec des incursions d'un téléphone que le visiteur pouvait d'ailleurs lui-même manipuler avec les manettes de la VR. Donc il a été aussi un autre rapport au corps fantôme. Ici, un autre projet qui s'appelle Rapture 2 de Alissa Berger, qui là était, une fois encore, cette idée de venir utiliser la VR comme un espace de reconstruction et d'une forme de réparation, qui était l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Marc, qui était un réfugié ukrainien vivant au Japon, qu'elle a rencontré là-bas. Et en fait, là, le projet est vraiment l'occasion pour elle, vraiment dans une collaboration avec lui, de venir reconstituer l'appartement qu'il a laissé à Donbass, qui a été détruit, dont il a été complètement dépossédé, qui était le lieu de vie de sa mère, qu'il n'a pas pu revoir suite à sa fuite de l'Ukraine. Et du coup, grâce à des personnes toujours présentes sur place, ils ont pu reconstituer en photogrammétrie l'intérieur de son appartement. Et donc, de façon très spectrale, cette personne a pu déambuler dans l'appartement à nouveau, d'une certaine façon, pour lui dire adieu à ce lieu, à ses souvenirs, à cette vie passée. Et dans son travail à elle, il y a vraiment aussi cette question d'une forme d'invisibilité aussi, puisque le personnage lui-même, comme vous pouvez le voir, va être régulièrement effacé comme ça. Donc elle nous dit: j'aimerais ne pas montrer Marc en tant que personnage dans le projet, mais jouer avec la notion de son invisibilité, montrer son invisibilité dans tous les domaines de sa vie, l'invisibilité de son traumatisme de guerre qu'il véhicule avec lui tout en étant joyeux dans sa vie en tant que mannequin, un autre aspect est son homosexualité à laquelle il a dû se soustraire lorsqu'il vivait au Donbass et qu'il doit encore cacher, et un troisième aspect du projet faisait écho à l'invisibilité générale des événements de guerre au sein de la ville prospère d'une génération Gen Z heureuse. Et en fait, dans son projet, elle va venir effacer la silhouette du personnage en reprenant vraiment le style visuel des images de guerre qui, en fait, avaient circulé sur les réseaux sociaux et sur lesquels les corps avaient été effacés, donc montrant vraiment ce damier, enfin, cette espèce de croisillon comme ça, caractéristique d'un gommage Photoshop. Donc là, du coup, une fois encore, la VR devient vraiment un moyen de venir replonger dans un souvenir et dans une forme de réparation, mais complètement lacunaire et fragmentaire. La photogrammétrie, enfin là on le voit d'ailleurs très bien, n'est pas parfaite, donc joue aussi comme ça sur des effets de glitch et de déformation qui montrent aussi tous ces la dégradation de tous ces états-là. Et donc dans le projet, elle associe aussi ça à la question du voguing, qui est une pratique du personnage, qui vient amener aussi une note vraiment d'espoir et de libération. Là, du coup, on voit bien cet exemple de la VR mise en lumière en extérieur, en ombre chinoise, dans sa scénographie. Un projet de Fei Formi Sano qui s'appelle The Dream in My Bones, qui là aussi était vraiment cette idée de venir créer un monde complètement onirique et fantomatique. C'est une artiste qui avait fait tout un travail sur la question des drapés au cinéma. Et qui imagine une expérience vraiment pour le coup assez tactile, avec un environnement vraiment physique et tout un travail de peinture sur soie, sur des textiles qui viennent entourer comme ça, envelopper le spectateur dans l'espace physique de l'installation, avec un travail de dessin également et même de sculpture, parce que vous voyez au-dessus cette araignée. Donc pour elle, en fait, la réalité virtuelle est comme un nouveau vêtement, comme une espèce de couche comme ça, en mettant l'accent sur les gestes et les expressions. Donc là, vous avez quelques autres vues du dispositif. Et là, du coup, la VR devient un peu cette idée de venir montrer un petit peu toutes les couches aussi de souvenirs, de mémoires qui nous composent. Elle dit dans l'installation « How many dreams are there in me ?» Et donc là, elle compare l'expérience de la VR à celle d'un train fantôme, avec l'idée du spectateur qui peut déplacer son regard, mais qui est comme sur des rails virtuels, avec une forme d'avancée comme ça entre ces différents drapés. Et après, alors je vous montre peut-être deux exemples, je vais essayer de ne pas déborder trop, pardon, mais qui amènent une expérience plus collective, puisqu'en fait la VR, de façon générale, est quand même plutôt vue comme une expérience extrêmement individuelle et solitaire. Je vous parle donc de deux projets pour lesquels la VR est plutôt une expérience collective, avec un projet exposé au Frénois il y a quelques années qui s'appelait Threshold de Matt Coulichaud, qui était en fait, alors là vous voyez l'extérieur, mais j'ai commencé par cette image parce que c'est assez mystérieux, en fait l'œuvre VR commençait par cette espèce de grande boîte qu'on voit dans le haut, dont se dégage une importante lumière. Il y avait des ouvertures qui permettaient d'en voir l'intérieur. Et donc en fait, les visiteurs étaient équipés ensuite d'un casque, mais également d'un sac à dos. Donc là, c'est vrai qu'il y avait aussi une sorte d'harnachage un peu plus important, qui en fait les plongeait dans une expérience assez singulière, qui était la reconstitution d'une exposition, qui était la première exposition de photographie ayant jamais eu lieu, celle de la série d'œuvres des Pencil of Nature de Talbot, donc, qui était l'inventeur du principe de négatif en photographie. Et en fait, dans le travail de Matt Coulichaud, là, on n'est pas tant dans une reconstitution historique et scientifique, même s'il a travaillé avec de nombreux historiens pour ce projet. En fait, c'est un artiste qui travaille énormément sur l'image, et en fait, du coup, ce moment de la photographie et de l'apparition de l'image photographique est vraiment pour lui un moment charnière qu'il a cherché comme ça à reconstituer. Et en fait, la singularité vraiment de cette expérience VR, c'est que le visiteur est dans une salle qui reprend vraiment les dimensions et l'espace physique avec des objets qui sont ces vitrines, voilà, d'une grande blancheur. Et quand on enfile le casque, nous sommes donc du coup plongés dans cette salle avec toutes ces textures qui vient du coup nous montrer ces images qui pour la plupart ont d'ailleurs disparu puisque la technique de fixation des images n'était pas totalement en point à l'époque, mais aussi nous replonger dans la muséographie de l'époque qui nous permettait de voir la façon dont ces œuvres étaient présentées. Il a été jusqu'à reconstituer aussi certains des objets scientifiques qui étaient montrés en parallèle de ces images à l'époque. Et du coup, il interprète également le contexte, puisque c'est une exposition qui avait lieu en 1839, donc en Angleterre. Et du coup, on y voit aussi des manifestants par la fenêtre, donc qui là viennent donner un aspect plutôt social au contexte de l'époque dans lequel cette œuvre avait eu lieu. Là, du coup, vous avez une autre œuvre qui est plutôt dans un rapport collectif à cette expérience de l'AVR, qui est donc Mega Community de Lucas Sneffler, qui en fait cherche à nous plonger dans une expérience qu'il a eue, qui est celle assez banale, mais en même temps de plus en plus rare, de l'observation nocturne d'un ciel étoilé, qui a été perturbée par le passage d'une file de satellites Starlink, donc avec cette idée aussi de pollution nocturne qui vient troubler un moment de contemplation un peu immémorielle autour d'un feu. Et donc l'œuvre VR qu'il propose vient être un peu la recréation de ce moment-là, mais la singularité vraiment du projet, c'est le fait que plusieurs visiteurs peuvent faire l'expérience de la VR en même temps et se retrouver sur ces bancs autour de ce feu virtuel pour une même expérience commune de contemplation. Donc là, du coup, voilà cette idée aussi d'un moment partagé malgré la virtualité de cette expérience. Voilà, donc là je vous remets un peu différents exemples de scénographie. Je vais passer la parole à Jade tout de suite. Je termine peut-être très rapidement sur un projet de Pauline de Chalandard, qui est une artiste que vous allez retrouver dans un des projets qu'on présente au forum en dessous, qui est une artiste qui avait fait vraiment tout un travail, en particulier sur le geste du dessin à 360 degrés, donc là dans une esthétique très différente de ce qui a pu être montré avant, mais elle qui vraiment est partie de cette question du dessin et de se demander comment est-ce qu'on peut dessiner dans l'air, et donc à partir d'un dispositif en VR avec le Pierreville, l'Université de Lille, d'imaginer un outil vraiment adapté à sa pratique. Là, vous avez quelques croquis de ses intentions pour les gestes. Là, vous la voyez équipée d'outils en train de dessiner. Et donc, c'était vraiment l'idée de se poser sur cette question du temps et de temporalité du tracé. Et donc, à 360, on pouvait voir le dessin se créer autour de nous, mais toujours avec cette idée d'une forme de
d'interconnexion et de dialogue avec quelque chose de plus physique, donc ce qui fait un bon pont avec le travail de Jade, puisque vous allez voir, l'AVR s'accompagne aussi d'un travail plus matériel. Et je vous souligne peut-être juste donc un site de médiation qu'on a mis en place au Frénois qui s'appelle Open Process, qui est en fait un outil de médiation en ligne qui permet de plonger un peu dans le processus de création de plusieurs œuvres, les intentions de l'artiste, les matériaux, les techniques utilisées, mais également des interviews de collaborateurs, etc. Voilà, et donc du coup l'exposition Open Process, dont vous retrouverez un fragment en dessous qui n'est pas présenté dans son intégralité, mais vous avez deux des modules, voilà, donc vous voyez un aperçu ici. Je vous remercie, je laisse la parole à Jade.
Donc du coup je m'appelle Jade Jouvin et donc j'ai été étudiante au Frénois pendant 2 ans. Oui, alors du coup, en fait, pour introduire mon travail, j'avais comme idée de vous montrer une vidéo qui s'appelle « Les images qui suivent ». Du coup, c'est une vidéo que j'ai réalisée, je reviens un peu sur mon parcours. J'ai fait les Beaux-Arts à Dijon et ensuite j'ai tout de suite enchaîné avec le Frénois. Et au Beaux-Arts à Dijon, j'ai développé une pratique transdisciplinaire qui a commencé avec l'écriture et la performance où en fait je faisais jouer aux membres de ma famille leur propre rôle dans des fictions que j'écrivais. Qui interrogeait toujours le poids de la famille et la structure, le poids de certaines dominations, tensions, non-dits, mais aussi l'amour, etc. Avec mon père qui faisait le père, ma mère qui faisait la mère, moi je faisais la fille, mon frère faisait le frère, ma soeur, la soeur. Et en fait, par exemple, j'avais réalisé cette vidéo quand j'étais en 4e année, qui reprend... en fait, mon père a eu un geste compulsif pendant toute mon enfance, c'est qu'il nous a toujours énormément filmé, bon, j'ai envie de dire comme plein de gens, surtout aujourd'hui avec les téléphones portables, mais en fait, en même temps qu'il nous filmait, dans la même journée, par exemple, il était capable de nous montrer les plans, si bien qu'on s'est regardé grandir. Et par exemple, dans cette vidéo, il explique que le film préféré de ma sœur Ondeline, c'était de se regarder, enfin qu'à 3 ans, son film préféré, c'était de se regarder à la plage. Et il s'est rendu compte assez vite que peut-être il était en train de construire une mémoire supplémentaire, qu'on allait se souvenir de choses dont on ne devrait pas se souvenir. Parce que du coup, normalement, à 5 ans, on n'est pas censé avoir des souvenirs de vacances, avoir des flashs, mais que nous, c'est ce qui allait se passer. Et donc, c'était quelque chose qui l'embêtait, mais ça l'a pas arrêté, il a continué de montrer. Et arrivé à l'adolescence, il a commencé à faire quelque chose encore de nouveau, c'est qu'il a eu un ordinateur avec Windows Movie Maker, un logiciel de montage, et du coup, il s'est amusé à faire un démontage de notre enfance en changeant de personnage, de point de vue, selon... l'événement familial, par exemple, si c'était l'anniversaire de mon frère, il allait concentrer tous les rushs sur Pierrot. Si c'était Noël, il allait faire une concentration que sur Noël. Si bien, et à chaque fois, ça durait quand même entre 1h30 et 3h, donc c'était vraiment des films. Et je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai compris la puissance du montage. Alors ça, associé à la cinéphilie de ma mère, c'est-à-dire qu'un même moment filmé, coupé à un instant différent et entouré de moments différents, va prendre un sens nouveau. Et en fait, c'est sûrement pour ça que j'ai commencé, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, à faire ces performances fiction, entre la fiction et le documentaire, en faisant jouer aux membres de ma famille leur propre rôle, parce que finalement, j'ai juste continué le geste de mon père. Alors que, vu que mon père est musicien, moi j'ai toujours cru que c'était la musique qui nous avait transmis, mais en fait, peut-être que c'est plus la compulsion documentaire, un peu à un cavalier. Mais du coup, c'est dommage, parce que dans cette vidéo, on l'entend un peu parler en voix off, et ça fait vraiment ça. Du coup, je vais revenir à... Voilà. Du coup, bah, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un peu les images que vous avez vues. Parce qu'en fait, arrivé en 4e année, il y a eu confinement. Et du coup, j'ai été bloquée à 300 km de ma famille, parce que je n'ai pas voulu qu'on se finisse avec eux. Mais du coup, j'ai pas pu travailler avec eux pendant presque 2 ans. C'était très compliqué de prendre le TGV. Et du coup, j'ai dû développer une pratique annexe à la performance et à la vidéo, vu que de toute façon, tous les centres d'art, il n'y avait plus d'événements performatifs. Tout devenait très compliqué pour ce médium-là. Et j'ai décidé de chercher... comment...
Tu peux faire la flèche.
Ouais, c'est ce que je fais. Désolée. Et du coup, j'ai décidé de développer une pratique qui demanderait quasiment aucun matériel, c'est-à-dire feuille A4 et crayon de couleur. Et aussi parce que je me suis rendu compte donc que j'étais assise sur une mine d'archives d'images inutilisées et qu'il fallait bien faire quelque chose. Et donc j'ai commencé cette série de dessins qui s'appelle Un spectacle en soi, qui en fait résulte toujours du même protocole, c'est-à-dire que je regarde les archives vidéo de mon père. On a à peu près, on doit bien avoir 200 heures d'archives, c'est vraiment astronomique. Et encore, je me limite que à celles qui ont été faites à la caméra, pas au téléphone portable. Mais du coup, je regarde la vidéo en mute, souvent x5, et dès que je vois une séquence qui me frappe l'œil à cause de la lumière, de la position des corps, etc., je fais plusieurs captures d'écran et je réorganise sur une feuille A4 les rapports de force et d'espace. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion de passer du format paysage au format portrait et de raconter une nouvelle histoire. Donc j'ai comme ça, moi aussi, réalisé compulsivement des centaines de dessins que j'accroche, que je monte toujours de manière... avec un accrochage très rigoureux, mais à l'intérieur duquel il peut se passer plein de choses, parce que si toutes les planches sont toujours accrochées exactement à la même hauteur, exactement à la même distance, à chaque accrochage, pour moi, c'est l'occasion d'une nouvelle scénographie, parce que c'est aussi un projet sur le temps que je construis depuis 4 ans. Je réalise toujours des planches nouvelles. Et chaque accrochage est l'organisation d'une nouvelle histoire, parce que pour moi, chaque dessin a une force d'autonomie, il pourrait se suffire à lui-même. Tout en faisant écho aux autres. Et le rêve ultime, ce serait une installation collaborative où le public viendrait lui-même réorganiser l'histoire, mais c'est pas possible pour des raisons d'assurance, tout ça. Et du coup, en faisant tous ces dessins, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des protagonistes récurrents dans mon histoire, qu'il s'agissait de 7 personnes, 3 enfants et 4 adultes, que j'ai décidé donc de représenter sur un rouleau d'1m50 sur 10m, aussi parce que je voulais sortir de mon format A4 portrait et que je voulais aller et sur du plus grand pour engager mon corps à nouveau, vu que le confinement était fini. En longueur, pour me confronter à une autre... Donc pour moi c'est important de parler d'espace, parce qu'après je suis arrivée sur de la VR. Ces personnages... pour moi, quand j'ai commencé ce dessin, c'était 3 enfants, 2 parents, 2 grands-parents. Mais un jour, quelqu'un m'a fait la réflexion que ça pouvait aussi être les enfants bloqués dans le temps et des adultes qui ont encore le pouvoir d'agir. Agissant, ils vieillissent, quoi. Comment âge ? Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, j'aime bien parler de cette interprétation. Mais du coup, quand je suis arrivée au Frénois, parce qu'en fait, le Frénois, c'est assez particulier. En deuxième année, on a cette obligation, enfin, c'est plutôt un challenge, d'utiliser des nouvelles technologies pour travailler. Et là, par contre, le choix est libre, il y en a plein. Et moi, j'aimais beaucoup comment c'était formulé, c'est-à-dire qu'il nous disait qu'il fallait que la nouvelle technologie, ça soit la solution plastique au problème qu'on se posait. Je me suis très vite dit qu'il fallait que je fasse de la réalité virtuelle, alors même que j'ai eu une discussion super intéressante avec une chercheuse qui s'appelle Marion Zilio, qui en fait ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas travailler avec l'IA, étant donné que mon procédé de recherche était très similaire, c'est-à-dire que j'étais en boucle, en écho sur moi-même depuis des années avec les mêmes images, et que, un peu comme les IA qui se tuent en se mangeant elles-mêmes parce qu'elles se répètent, bah, c'est un peu ce que je faisais. Et que, quelque part, si j'essayais de chercher, parce que, enfin, à être compulsivement en train de redessiner des images qui ont déjà été faites, alors que je sais bien qu'en fait, il y a des moments que mon père n'a pas filmé, et que c'est toujours les mêmes moments qu'il nous filmait, et que, du coup, pour moi, ça rejoignait vraiment cette réflexion sur la différence qu'il y a en français entre la mémoire et les souvenirs. Distinction qui n'existe pas vraiment en anglais, parce qu'on dit memory et memories, qui est que la mémoire, c'est un acte, c'est un geste, c'est réorganisé, c'est un travail, alors que le souvenir, c'est quelque chose qui est toujours présent, qui peut remonter à n'importe quel moment, c'est la question de la réminiscence, c'est le trou, et c'est quelque chose qui est hyper présent donc, dans l'histoire du cinéma, comme aussi l'a présenté la présentation de Lucie avec les autres étudiants, enfin tous les étudiants qui ont travaillé à la VR ont en fait travaillé avec la question du fantôme et la réminiscence. Même si je trouvais que c'était très intéressant ce que me disait Marion Zilio sur l'IA, le fait que j'aurais pu faire manger à une IA tous mes dessins pour voir où était l'image manquante, je suis quand même restée cantonnée à la VR parce que pour moi, la réalité virtuelle, c'était... Il y avait aussi ce rapport médical que je connaissais, où la réalité virtuelle est très utilisée dans la médecine, dans le soin du stress post-traumatique, ou de la mémoire, traumatique, l'amnésie traumatique, pardon, où on essaie de faire revivre aux gens le trauma en temps réel, afin qu'ils puissent le replacer correctement dans la mémoire et que ça ne vienne plus troubler le présent. Donc pour moi, il y avait quelque chose de très en lien avec la recherche que je faisais, d'aller-retour et du passé qui encombre. Et il y avait ça. Et ah oui, et aussi le fait que c'est rigolo parce que du coup, j'ai pas du tout la même position que Domenico. C'est-à-dire que pour moi, la réalité virtuelle, c'est une salle de cinéma qu'on peut poser sur la tête d'un spectateur et que pour la première fois, le spectateur est libre de son point de vue et qu'il peut choisir de pas regarder la partie du film qu'il a pas envie de voir parce qu'on on prévoit un film en tant que spectateur. On sent d'abord par le corps ce qui peut arriver, notamment grâce au son, grâce à certains indices. Et si on se dit que c'est trop, avec la VR, on a le choix de regarder par terre et de ne pas forcément regarder ce qu'on nous demande de regarder. Donc là aussi, j'avais prévu de la vidéo, mais du coup, ça va être... Enfin, c'est pas dommage, il n'y a pas le son qui a été fait par Giovanni Mouchel. Mais il y aura l'image qui a été faite par moi. Je vais parler pendant, ne vous inquiétez pas. Oui. Et donc, donc ça, c'est pas mal parce que du coup, maintenant, on a l'opportunité grâce aux plateformes numériques de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que là, voilà, le mouvement que je fais, c'est le mouvement que vous pouvez faire avec le casque. Je vais pas trop le faire parce que je veux pas vous donner envie de vomir. Mais en fait, du coup, ce que j'ai eu comme désir, c'était de faire un film d'animation en réalité virtuelle, entièrement conçu à partir de la pratique du crayon couleur, on va pouvoir dire artisanal, dans l'idée que j'avais besoin, envie qu'on soit dans mes dessins, qu'on soit dans et entre mes dessins. J'avais prévu de vous lire un texte que Vincienne Després avait écrit, mais je sais pas si je pense que j'aurai pas le temps. Ouais, donc il va falloir conclure, donc je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Bon, bah voilà.
Je précise juste qu'on a un casque avec l'œuvre de Jade, donc vous pourrez l'expérimenter au moment du forum en bas. Et donc n'hésitez pas après si vous avez d'autres questions.
Merci beaucoup à vous deux.